Narcisse. Un mot sur le mythe de Narcisse. Narcisse est né du viol d'une nymphe par un fleuve. C'est-à-dire que l'eau est au premier plan de son existence, et au sous-bassement même de son existence. Et le malheur de Narcisse est que tout le monde tombe amoureux de lui, et il était capable de faire tomber amoureux n'importe qui dès les premiers jours de son existence. Et il ne répond pas à l'amour qui lui est porté, si bien qu'il fait le malheur de tous ceux qui tombent amoureux de lui. En particulier un nymphe écho qui en perd sa substance et qui réduit donc à une voix. Et une voix qui ne parle pas d'elle-même, qui ne parle pas de façon personnelle, mais qui se contente de répéter en écho les derniers mots d'une phrase qui sont... les derniers mots prononcés d'une phrase. Un des amants un des amoureux de Narcisse se suicide finalement et espère qu'un jour il tombera amoureux et souffrira comme lui a souffert d'un amour sans réponse. Et effectivement, il se plaint à Némésis qui fait que la vengeance va lui venir du fait qu'il va tomber amoureux de sa propre image. Un jour, il est penché sur la surface de l'onde, d'une source extrêmement calme, il voit un adolescent, il lui prête une chair, et il tombe amoureux jusqu'au moment où, avec horreur, il se rend compte qu'il est amoureux de lui-même, que cet adolescent qu'il voit, c'est lui. Et alors à ce moment-là, il va se frapper la poitrine, s'ensanglanter et finir par mourir. Et on ne retrouvera pas son corps, mais à sa place poussera une fleur, le narcisse. Triste fleur, dit Mallarmé, qui n'a pas d'autre émoi que son ombre dans l'eau vue avec atonie. Et c'est donc le destin de Narcisse lui-même. Alors, sur le plan psychopathologique, on peut dire que nous sommes tous des narcisses et il est heureux que nous soyons tous des narcisses. Ce qui fait problème et notre malheur peut venir de la qualité de notre narcissisme, de la façon dont nous sommes des narcisses. Si nous appuyons notre narcissisme sur le fait d'aimer quelqu'un qui nous le rend bien, sur le fait d'aimer un travail qui rend service aux uns et aux autres, eh bien notre narcissisme est... solide, nous apporte et apporte aux autres. En revanche, si nous tombons simplement amoureux de notre propre élégance, si nous passons notre temps à soigner nos cravates, nos vestons et nos chaussures, eh bien, nous tombons dans une forme de narcissisme qui est le dandisme et qui ne produit rien, qui ne crée rien d'autre qu'une image de soi-même. Et c'est un des aspects du narcissisme que d'avoir besoin des autres pour renvoyer un reflet, et un reflet qui soit un reflet aussi flatteur que possible de nous-mêmes. Du coup, toute la pathologie du narcissisme est liée à cela. Si nous avons extraordinairement besoin du reflet de l'âme d'autrui, c'était Gombrowicz qui disait « Nous dépendons tous de l'image que nous donnons dans l'esprit d'autrui, cet autrui fut-il un crétin ?» Si nous dépendons complètement de l'image que nous donnons à autrui, si cet autrui cesse de nous renvoyer une image favorable, nous éprouvons une sorte de blessure, de perte. Et dans certaines formes de dépression, eh bien, c'est de là que ça vient. On voit des gens qui font des dépressions parce qu'ils n'ont pas obtenu la Légion d'honneur, ce qui peut paraître à beaucoup de gens bien peu pour se déprimer. Mais ça peut tout à fait arriver. Un honneur attendu et qui n'est pas reçu peut nous blesser et nous plonger dans un état de dépression. Et la dépression mélancolique était donnée par Freud comme une névrose narcissique, comme un système où l'esprit se referme sur lui-même et finit par se perdre dans une espèce d'abîme sur soi-même et sur sa propre douleur. L'investissement d'une douleur est un investissement narcissique. Et là, on ouvre le chapitre de tout ce qu'est le narcissisme corporel. Une douleur, si nous l'investissons trop, peut fixer notre esprit et nous couper d'une certaine manière de la relation avec les autres. Alors c'est vrai de douleur physique, quelqu'un qui a une névralgie du trijumeau par exemple, et qui souffre d'une manière extrêmement violente et tout le temps, dès qu'il effleure sa joue, il a des décharges douloureuses extrêmement grandes, se met à attacher une importance démesurée au fait de ne pas avoir de courant d'air, de ne pas avoir de bruit, de ne pas avoir de choses qui puissent déclencher cette douleur-là. Et du coup, il néglige relativement de s'intéresser aux gens qui sont proches de lui et à ce qui peut affecter les autres. Et il est donc un peu replié sur sa douleur physique, et il y a donc tout un registre narcissique lié à la douleur physique. Mais ça peut être le cas aussi de la douleur morale, et la douleur morale de la dépression, qui peut être une façon de se fixer considérablement sur quelque chose qui nous a blessé et occasionné une douleur, que ce soit peu important comme la Légion d'honneur que l'on n'a pas eue, ou que ce soit quelque chose d'important comme la perte d'une relation qui comptait éminemment pour nous, à juste titre, et parce que c'était quelqu'un avec qui la relation était extrêmement riche, et l'interruption de cette relation qui nous apportait beaucoup, et bien qui nourrissait notre narcissisme d'une certaine façon, et bien se trouve rompue et nous inflige une blessure narcissique. Alors, dans l'évolution d'un individu, l'apport narcissique des autres est quelquefois recherché d'une manière compulsive. Si on prend l'exemple d'Edouard Manet, par exemple, Manet était incroyablement sensible à l'avis que l'on pouvait donner sur son œuvre. Et il était absolument avide de compliments. Et après l'éreintement qu'il avait subi par la critique au moment du Déjeuner sur l'herbe, il se plaint, il va pleurer dans le gilet de Baudelaire, qui lui écrit un mot en lui disant « Mais écoutez, pourquoi est-ce que vous en faites autant ?» Il y a eu des gens comme Goethe, par exemple, qui ont essuyé les malheurs de la critique, et ça ne disqualifie en rien l'œuvre qu'ils ont bâtie. Mais lui est tellement blessé qu'il part en Espagne à ce moment-là, pour se réfugier en quelque sorte à l'ombre de Velázquez et des maîtres espagnols qu'il admire énormément. Il a besoin au fond de reconstituer son narcissisme en s'appuyant sur des figures qui sont des figures paternelles idéales et qui ont le mérite par rapport à son père de ne pas proférer de critiques et de ne pas mépriser ce qu'il fait. Et un des drames de Manet et que son père aurait voulu qu'il soit un personnage officiel, j'imagine conseiller d'État ou quelque chose comme ça, et que Manet s'est mis à faire de la peinture et n'a fait que ça. Mais on peut penser que son souci d'avoir des médailles dans les salons, d'avoir du succès de public, reconnu par le public, était pour lui une manière de récupérer l'équivalent de ce que son père ne lui avait pas donné, sur le plan du soutien narcissique. Dans les relations parents-enfants, le rôle des parents pour soutenir le narcissisme des enfants est tout à fait considérable. Et à un moment donné, l'enfant qui perçoit qu'il ne peut plus être un objet d'amour bien consistant pour ses parents, du fait qu'il est trop petit, du fait qu'il n'a pas la capacité sexuelle, eh bien, a besoin que ses parents lui disent « ce que tu fais est bien ». Non pas « on t'adore », non pas « tu es notre chérie », non pas « tu es beau », mais « ce que tu fais est bien ». C'est-à-dire qu'il y a là un renforcement de l'investissement narcissique, de l'activité de l'enfant en direction du monde extérieur. C'est un point donc tout à fait important dans l'évolution de l'enfant. Et Manet, lui, avait beaucoup souffert du fait que son père ne lui avait pas apporté ce type de soutien, au point qu'il aura lui-même beaucoup de mal à investir une fonction paternelle. Il va épouser une femme qui était son professeur de piano, qui a donc quelques années de plus que lui, et qui a un fils dont on ne sait pas trop dire s'il est l'enfant naturel de Manet lui-même ou si c'est un enfant que la femme qu'il aura épousé a eu avant de l'épouser lui. Toujours est-il que ce garçon, qui est son beau-fils, il a énormément de mal à l'investir. Il aura beau avoir fait un merveilleux portrait de lui dans le Déjeuner dans l'atelier, qui est un tableau absolument admirable, qui est à Munich, où on voit cet adolescent avec son canotier, et qui est un très très beau portrait. Malgré tout, il aura beaucoup de mal à l'investir et il n'osera pas épouser la mère de cet enfant-là du vivant de son père, pour ne pas avoir à lui dire et à lui montrer qu'il s'est marié avec cette femme-là. C'est-à-dire que le narcissisme douloureux de Manet va à la fois être un moteur, parce qu'il va chercher à faire une œuvre de plus en plus belle, de plus en plus accomplie, mais en même temps une source de souffrance de tous les instants, qu'il va chercher à combler aussi, alors donc en cherchant, comme je l'ai dit tout à l'heure, les compliments, les médailles dans les salons, etc., mais aussi en recherchant l'admiration des femmes, et il va être couvert de femmes, il va avoir de multiples liaisons qui ne dureront jamais extrêmement longtemps, et à la fin de sa vie, il meurt un peu plus, à peine, enfin, il a un peu plus de 50 ans quand il meurt, mais il va souffrir à la fin de sa vie quand il fait le portrait d'une femme, que cette femme se refuse à lui, alors que quand il était jeune, il avait l'espèce de certitude que quand une femme demandait, ou quand le conjoint d'une femme demandait à Manet de faire le portrait de celle-ci, eh bien, il avait très souvent une aventure avec elle et rien ne lui résistait, il ne devait lui résister. Sans ça, il en souffrait beaucoup. Et c'est une forme de pathologie du narcissisme, c'est une espèce d'écorché vif, si vous voulez. Et dans la vie, beaucoup de gens que l'on appelle des écorchés vifs sont des gens dont le narcissisme est spécialement vulnérable. Alors, le narcissisme intervient très, 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 très souvent. Par exemple, la recherche des médailles de la part de Manet, elle était un peu compulsive, et surtout, il souffrait beaucoup de ne pas les avoir. Mais en même temps, nous avons tous besoin d'une certaine reconnaissance sociale. Nous avons tous besoin que les autres estiment ce que nous faisons ou la personne que nous sommes. C'est Albert Camus qui a écrit « Je ne suis pas assez grand pour me passer d'honneur ». Et l'honneur est une valeur narcissique. Alors, si l'on prend le déroulement des mouvements du psychisme, on a beaucoup opposé, et on a raison de l'avoir fait, on a raison de le faire toujours, ce qu'on appelle les investissements narcissiques et les investissements objectaux. Les investissements narcissiques, c'est tout ce qui concerne les investissements de nous-mêmes ou de nos propres productions artistiques, professionnelles, etc., etc. Et de l'autre, les investissements objectaux, eh bien, c'est investir quelqu'un pour ce qu'il est, pour ce que nous lui apportons et pour ce qu'il vous apporte, c'est-à-dire accepter une forme de dépendance par rapport à quelqu'un. Et un des problèmes de la vie amoureuse, c'est que quand nous aimons quelqu'un, nous donnons le pouvoir à ce quelqu'un de faire la pluie et le beau temps, c'est-à-dire que nous ne sommes plus tout à fait maîtres de nous-mêmes. Le narcissique veut être maître de lui comme de l'univers, et surtout ne pas dépendre de l'affection d'autrui pour être heureux. Si bien que les narcissiques très souvent multiplient les relations qui les flattent, mais en même temps évitent de s'engager dans une vraie passion dont ils pourraient souffrir. Et on a quelque chose d'assez particulier qui apparaît dans le mode de vie de certains narcisses, c'est ce qu'on peut appeler une sexualité narcissique. C'est-à-dire que la sexualité est habituellement liée à une sorte d'amour sentimental et à une forme de dépendance acceptée de la part de l'affection de l'autre. Dans la sexualité narcissique, la satisfaction recherchée est une satisfaction de la plénitude de son propre corps, la plénitude d'une satisfaction corporelle vécue dans la sexualité, la partenaire ayant relativement peu d'importance en tant que personne. Ça ne veut pas dire que les amoureux, enfin que les amants ou amantes narcissiques maltraitent leur partenaire. Simplement, elles ne lui donnent pas une place psychique qui leur donnerait un pouvoir trop important. Un exemple très parlant de cette sexualité narcissique est donné par Paul Valéry. Paul Valéry a eu pendant extrêmement longtemps une peur de la passion amoureuse. Il avait connu vers l'âge de 20 ans un moment de passion franchement pathologique, une fixation pathologique, passionnelle, à une femme qu'il avait simplement rencontrée dans la rue et à qui il n'a jamais même parlé, dit-il. Et un jour, il s'est senti devenir fou avec cette affaire-là. Et à ce moment-là, il a dit qu'il avait cherché à briser toutes les idoles, sauf celle qui était nécessaire à briser les autres, l'idole de l'intellect. Et c'est un homme qui s'est mis pendant des années et des années, pratiquement toute sa vie, à surveiller ce qui se passait en lui à travers l'écriture de ses carnets. Tous les matins, il écrivait ses carnets. Une intelligence admirable et d'une perspicacité tout à fait formidable, mais qui avait entre autres but de contrôler ses sentiments, de contrôler ses passions. Et il a une phrase à propos de la sexualité, on dit le plus dégoûtant, c'est le sentiment. Hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous prend et dont on n'arrive pas à se décoller, alors que le reste, eh bien, ma foi, l'aspect physique, quand c'est fini, c'est fini, on n'en parle plus. Et naïve nécessité, dit-il, alors que le sentiment, on ne s'en fait pas comme ça, et il faut s'en méfier. Ça n'est qu'après avoir écrit La Jeune Parc, qui, de mon point de vue, et du point de vue aussi d'Elisabeth Biro, est l'équivalent d'une auto-analyse. Et la forme d'écriture de la Jeune Parc et la façon dont il parle de l'écriture de la Jeune Parc tout invite à considérer ce travail-là comme l'équivalent d'une expérience auto-analytique et puis le contenu aussi de la Jeune Parc qui aboutit finalement à une forme de libération. Alors qu'au début, on voit la Jeune Parc repliée sur elle-même et au fur et à mesure, elle s'ouvre à l'amour d'objet, elle s'ouvre à l'amour d'autrui et à la passion. Alors, après l'écriture de la Jeune Parc, il connaîtra une passion, plusieurs passions, et il se risquera à des passions, alors que jusque-là, il a organisé sa sexualité narcissique, d'abord avec des rencontres avec des femmes avec qui il avait des relations sympathiques, mais pas davantage. Il s'est organisé aussi en faisant un mariage de présentation, un mariage avec une femme qu'il aimait bien, avec qui il a eu des enfants, et qui était une femme adorable d'ailleurs. Tous les témoignages concordent dans l'espèce de très bonne entente qu'ils avaient ensemble, mais à l'évidence, ce n'était pas une passion comme celle qu'il a pu connaître, passion dont il se méfiait, parce que la passion met en cause le narcissisme, et la vie amoureuse menace le narcissisme. À la fois, la vie amoureuse nourrit le narcissisme, et il n'y a rien de plus renforçant, de plus roboratif pour le narcissisme qu'une histoire d'amour heureuse, réussie, qui dure, avec une relation dans laquelle quelque chose se renforce. Mais en même temps, il n'y a rien de plus blessant pour le narcissisme que d'être délaissé, que d'être d'un seul coup abandonné, ce qui représente une blessure narcissique considérable. Alors, comme vous voyez, on n'échappe pas au monde du narcissisme. Nous sommes forcément plongés, tout un chacun est plongé dans les problèmes qu'il peut avoir avec son propre narcissisme. Au plan social, incontestablement, le narcissisme, avec la question de l'identité, de l'image que l'on donne, de la nécessité de recevoir une reconnaissance sociale, le narcissisme est aussi une notion qui est à l'articulation entre la psychologie individuelle et la psychologie collective. Et un auteur américain, Christopher Lash, a écrit un livre où il reprend ça d'une manière extrêmement approfondie, un livre qu'il a appelé « La culture du narcissisme », où il montre à quel point, aujourd'hui, l'idéal que l'on donne aux gens est de l'ordre d'un idéal narcissique. Et il montre aussi à quel point ce culte des vedettes, des célébrités, a fait du peuple américain un peuple d'admirateurs, dit-il. Et il dit que ces admirateurs-là cherchent à réchauffer leur propre individualité à la lumière des stars, des étoiles. Et je crois qu'il n'a pas tort et qu'actuellement, l'idéal narcissique joue de plus en plus et parallèlement, les relations familiales s'affaiblissent, les échanges familiaux s'affaiblissent, les relations d'amitié, soi-disant d'amitié sur Facebook, sont des relations extrêmement superficielles, très instantanées, très éphémères, et n'ont pas du tout la qualité des amitiés type Montaigne et la Boétie, hein, de gens qui se connaissent depuis longtemps, qui échangent, qui sont capables d'avoir un regard l'un sur l'autre, de s'apporter, et les choses sont beaucoup plus éphémères en surface. Et c'est beaucoup plus de reflets dont il s'agit. Hein, et de ce point de vue-là, ce culte du reflet donné, fut-il immédiat et un peu irréfléchi, est quelque chose qui est sans doute la caractéristique, une des caractéristiques de la façon dont le narcissisme à notre époque est vécu au plan social.